FM. 93.
Il reste moins d'une semaine pour se décider si on prend un CELI ou un REER pour ceux et celles avant qu'on fasse nos rapports d'impôts. Ceux et celles qui veulent sauver un peu d'argent, il nous reste un mois pour décider où on met nos économies. Un mois, je suis généreux.
Nulle part, là.
C'est rien.
Non, j'ai mis ça en REER. En fait, c'est pas vrai. J'avais un 2000 qui me restait, notamment sur ma carte de crédit, tu sais, les points, machin, chose. J'ai mis en REER.
On va demander à quelqu'un qui se connaît mieux que toi et moi, Myriam. C'est David Descoteaux que vous entendez ici faire des chroniques économiques que vous lisez dans le Journal de Québec, mais qui a aussi, surtout, écrit un livre qui s'intitule « D'endetté à millionnaire ». Salut, David.
Salut.
David, d'abord, est-ce que c'est... On peut pas dire à quelqu'un qu'il faut prendre un REER ou un CELI. J'imagine que ça dépend de chacun des cas, puis chaque cas est différent, c'est ça?
Exactement. Tu vois, il y a cette semaine, je lisais, il y a une statistique qui, puis on la voit souvent, cette statistique-là, qui disait que moins de 50% des gens, des Canadiens, avaient pris ou entendaient prendre des REER cette année. Mais moi, je regarde ça puis je me dis, c'est correct, c'est pas catastrophique là. Bon, oui, ça trahit peut-être le fait que les gens épargnent pas assez.
Ça
mais épargner, ça veut pas dire prendre des REER automatiquement. Tu peux épargner de plein de façons. Et justement. Pour un paquet de gens, prendre des REER, ça ne fait aucun sens. Je m'explique, OK? Le principal avantage du REER, c'est quoi, dans le fond? C'est simplement de te faire économiser de l'impôt au moment où tu en payes le plus, que tu te fais vraiment plumer là, par le gouvernement là, au maximum. Là.
Pour aller en payer dans les années où je vais en toucher pas mal moins.
Exactement. Tu joues, dans le fond, avec les tables d'imposition. Tu en prends des REER quand tu gagnes beaucoup, quand tu es au summum de ta carrière, puis tu les décaisses quand tu gagnes le moins possible. De sorte que si tu prends 5 000 d'impôts, 5 000 de REER cette année, par exemple, OK? Quelqu'un qui gagne 75 000, prend 5 000 de REER cette année. Bon, ce 5 000-là, il va pouvoir le déduire de son revenu, de son 75 000. Donc, il va peut-être économiser, là, mettons, 2 000 piastres d'impôts. Puis là, à la retraite, logiquement, tu gagnes beaucoup moins. Ouais. À la retraite, peut-être que cette personne-là va gagner 30 000. Puis là, quand il va décaisser son 5 000 de REER, ben, il va peut-être payer même pas 1 000 d'impôt dessus. C'est ça, là tu viens de te faire 1 000 sur le dos du gouvernement.
C'est juste
simple que ça, un REER, dans le fond. Là. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser. Il faut vraiment être conscient de sa propre carrière, de où on va être dans quelques années pour se dire... Je vais prendre des REER quand je vais vraiment être au top, gagner vraiment beaucoup d'argent. Puis, quand je ne gagnerai pas beaucoup, ben, je vais prendre peut-être des CELI ou quelque chose d'autre parce que ça me donnera absolument rien. Regarde, par exemple, un fonctionnaire. Bon, à Québec, il y en a beaucoup de fonctionnaires, mais des fonctionnaires qui gagnent pas beaucoup d'argent, mettons 45 000 $, okay, il y en a quand même beaucoup. À 45 000 $, tu peux prendre des REER, mais... Souvent, le fonctionnaire va aussi avoir un bon fonds de pension. Ouais. Donc, à la retraite, il va peut-être gagner aussi 40 000 $. Tu comprends? Donc, son taux d'imposition va être exactement le même au sommet de sa carrière qu'à la retraite. Donc, ça sert absolument à rien pour lui de prendre des REER. Il est aussi bien de mettre ça dans des CELI ou dans d'autres véhicules d'épargne.
J'ai lu récemment que les jeunes préfèrent mettre l'argent dans des CELI parce que ça leur permet de réaliser des projets.
Oui, c'est une façon. Ben, le CELI, on va l'expliquer brièvement. La différence avec le REER, c'est que le CELI, lui, tu mets 5 000 $ dans un CELI, tu peux pas déduire ça de ton revenu. Tu n'économiseras pas de l'impôt. Par contre, tous les gains que tu vas faire, les gains à la bourse que tu vas faire, par exemple, ils seront jamais imposés. Parce que là, on l'oublie peut-être, là, mais tout ce qu'on gagne avec nos fonds communs et tout, là, c'est des gains en capitaux, ils sont imposés à la fin de l'année. Là.
Ouais.
Dans un CELI, tu peux mettre de l'argent, tu peux... Si tu es bien chanceux, tu vas faire un coup, tu vas investir dans une jeune minière... une compagnie minière, puis pouf, ça va faire 100%, tu vas pouvoir tout garder cet argent-là et ne pas en donner une scène au gouvernement. Donc, ça peut être aussi un véhicule, comme tu le dis, pour des projets. T'as un 5 000 ou 10 000 $ qui te tombe du ciel, t'as un héritage, je sais pas trop, tu mets ça dans un CELI, tu fais fructifier ça pendant 2-3 ans, puis là, quand vient le temps de faire ton projet, tu le retires parce que tu paieras rien au retrait. Donc, ça peut être très pratique, un CELI aussi.
Ce que j'observe des jeunes autour de moi, c'est qu'ils économisent, par exemple, pour faire le voyage de leur rêve. Puis au bout de 2 ans, ils ont le cash, puis ils sortent leur CELI pour ça.
Ben exactement, parce que au lieu de laisser ça traîner dans un compte chèque ou un compte épargne qui rapporte à peu près rien, tu mets ça dans un CELI, tu mets ça dans quelque chose de moindrement risqué, dans le sens où tu peux faire au moins qu'une coupe de gain. Puis si ton 5 000 $ te rapporte 200, 300 $ d'intérêt après 2-3 ans, ben c'est toujours ça de gagner.
Tu ne paieras pas d'impôts là-dessus. Mais en même temps, moi, c'est pourquoi je pense que les jeunes, il y a mieux mettre de l'argent dans les CELI que dans les REER. Je pense que David, puis c'est peut-être, en tout cas, dis-moi si je suis complètement fou, là, mais moi, j'ai l'impression que le gouvernement du Québec, avec les responsabilités qu'il y a, puis les programmes sociaux qu'on a, puis la courbe des âges qui est vieillissante, on va être obligé d'augmenter nos taux d'imposition si on garde les mêmes services publics. Et les jeunes se disent, ben, tant qu'à être taxé à un taux beaucoup plus élevé, j'ai aucun intérêt de mettre ça dans un REER. Quand je vais le sortir, si je vais payer encore plus d'impôts, je suis bien mieux de mettre ça dans un CELI. Ça peut être un calcul, ça?
Ça peut l'être. Je veux dire, si on est pessimiste par rapport à l'avenir et aux politiques.
Mais il n'y a pas de raison de l'être au Québec, là. Je m'excuse, là, mais faut être lucide et réaliste à un moment donné, là. Et on a des dépenses aussi capotées, là, puis on a une population qui vieillit, puis on a un gouvernement qui veut toujours donner plus de bonbons, puis jamais être responsable économiquement.
Mais aussi, la raison pourquoi les jeunes préfèrent le CELI, ça peut avoir du sens, parce que, comme je le disais, les jeunes sont au début de leur carrière. Je prends un exemple extrême, là, un médecin, un étudiant en médecine. Lui, là, s'il met des REER pendant qu'il gagne 30-40 000, il est vraiment mal conseillé, OK? Parce que les cotisations REER, là, sont limitées, il faut les garder, il faut pas les gaspiller quand c'est pas le temps non plus, là. Lui, c'est vraiment quand il va être médecin puis qu'il va faire son 400 000 par année, là, il va mettre le maximum dans ses REER. Mais en attendant, c'est une bonne idée de prendre des CELI, là. Gaspille pas tes cotisations REER. Mets ça dans ton CELI, puis quand tu vas être rendu avec ton gros salaire, tu transfères ton CELI dans tes REER, puis là, tu fais le maximum d'impôts. Les entrepreneurs, c'est la même chose. Un jeune qui se lance en affaires, les 3-4 premières années, il fera pas c'est beaucoup d'argent, là. Tu peux mettre ça dans un CELI à la place, ça sert à rien de mettre ça dans un REER. Si ta compagnie décolle, puis là, ça va super bien, bien là, ça va être le temps de prendre des REER.
Donc, le salarié modeste a intérêt à mettre dans le CELI, puis celui qui gagne, mettons, plus de 70 000 par année, il a intérêt à mettre dans un REER.
Ben c'est du cas par cas. Ça dépend aussi comment, si t'as un fonds de pension ou non à la retraite, tu sais, parce que je veux dire, ceux qui n'ont pas de fonds de pension, ils s'attendent à avoir à peu près pas grand-chose à la retraite. Là, ils vont payer beaucoup moins d'impôts à la retraite. Donc, c'est vraiment du cas par cas, okay. Mais il faut avoir un horizon de long terme. Là.
Parlons-en des cas par cas. Là. Je veux savoir, là, moi, là, c'est une question que j'imagine que tu dois te faire poser beaucoup. Là. Quelqu'un qui n'a pas de fonds de pension, qui est un travailleur autonome ou qui est un travailleur ordinaire, là, quel montant il doit mettre annuellement, soit dans ses REER, soit dans ses CELI? C'est quoi le montant ou le pourcentage de revenus que vous conseillez?
Bien, ce que le milieu conseille, parce que moi je veux. Petite parenthèse, je suis pas un conseiller financier, je suis pas autorisé à donner des conseils à personne.
Non, mais d'endetter un millionnaire, vous en donnez des tableaux quand même.
Oui, c'est ça. Mais le chiffre, le général, c'est 10 %. Vraiment, si tu veux être bien préparé à la retraite, tu dois mettre 10 % de tes
revenus bruts ou nets, là?
Brut.
Brut, ça veut dire, mettons, je gagne 40 000 $, faudrait que je mette 4 000 $. Hey, c'est beaucoup.
C'est pas facile, hein?
C'est énorme.
C'est pas facile, mais si tu le fais... Puis c'est ce qu'on explique dans notre livre aussi, dans l'État millionnaire. Si tu fais ça très tôt, dans ta vingtaine, tu vas la magie des intérêts composés de tes placements va faire en sorte que tu vas être millionnaire pour de vrai à 65 ans, dans le sens où ton fonds de pension va valoir plus qu'un million.
Moi, je l'ai
c'est vraiment ça la clé. Il faut vraiment commencer tôt.
J'ai souvent raconté, moi, mon père a payé toutes mes études et m'a juste demandé de mettre de l'argent de côté dans mes REER quand j'avais 22-23 ans, au début de ma carrière. Puis c'est ce qui va me permettre de faire une vieillesse qui a de l'allure.
Ben oui, c'est ça. Moi-même, écoute, je suis pas. Tu sais, j'ai écrit le livre avec Yann Sénéchal, que tu connais, Eric, qui est conseiller financier, puis lui, il était à ses affaires. Moi, j'aurais aimé ça, ce livre-là, le lire moi-même quand j'avais 20 ans, parce que j'aurais été pas mal mieux préparé qu'aujourd'hui, disons, là.
Okay, j'ai...
Mais là, si j'ai le temps, là, il y a une petite chose que je veux rajouter aussi. Je trouve que c'est important. Il y a beaucoup, beaucoup de gens là qui viennent, des fois qui me parlent puis qui me disent « Ah, les REER, c'est pas bon, ça rapporte juste 2 %.» Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut juste mettre dans un REER ce que la banque nous dit de mettre. Tu sais, les gens vont s'ouvrir un compte REER ou un compte CELI, c'est la même chose. Tu vas ouvrir un compte CELI à la banque, tu sors de là avec dans ton CELI, c'est un compte épargne à 1,5 %. Mais ce que les gens comprennent pas toujours, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut dans un CELI. Et dans un REER, c'est la même chose. Donc, ne vous limitez pas aux produits que la banque vient de vous vendre, parce que eux autres vendent leurs produits, on le sait bien. Mais on peut vraiment aller mettre ce qu'on veut dans un CELI ou dans un REER.
Ça peut être des actions, ça peut être des obligations, ça peut être n'importe
exactement.
Quoi. Il y a François qui nous écrit, ce que votre invité oublie de dire, c'est que l'impôt que tu sauves avec un REER, tu peux le placer pour obtenir un rendement là-dessus. Donc, ça vaut la peine, même si tu as le même revenu qu'à la retraite. Là. Son calcul est peut-être
pas fou. Je suis d'accord,
là.
Mais comme on dit, c'est du cas par cas. Il faut que tu t'assoies avec un conseiller et tu fasses tous ces calculs-là pour savoir si toi, vraiment, ça peut être payable. Parce qu'il y a plein de cas particuliers. Hein. Je veux dire, il y a des gens pour qui ils ont tellement pas d'épargne, ils n'ont rien, ils arrivent à la retraite, c'est aussi bien qu'il n'y ait pas de REER. Parce que s'ils ont des REER et qu'ils les décaissent, ben ça va faire augmenter leurs revenus puis ils vont perdre, par exemple, le supplément de revenu garanti du fédéral. Donc, ils vont perdre de l'argent à cause qu'ils ont pris des REER. Donc, quand on dit que c'est du cas par cas, là, c'est vraiment ça. Là. Les mères monoparentales, ça, c'est quelque chose... Au Québec, on reçoit... Ben, les mères, ça peut être les pères aussi, oui. Monoparentales. On reçoit beaucoup de chèques du gouvernement. Si ces gens-là, je sais que c'est difficile parfois, ils n'ont pas beaucoup de revenus, mais si ces gens-là trouvent le moyen de prendre des REER en plus, ça fait diminuer leurs revenus et ça fait augmenter les chèques qu'ils reçoivent. Il y a vraiment, il y a toutes sortes de passe-passe d'argent qu'on peut faire comme ça. Là.
Donc, on peut obtenir plus du gouvernement en économisant, en mettant de côté l'argent que le gouvernement nous envoie.
Exactement. Pour certaines catégories de personnes, c'est ça.
N'empêche qu'il y a quand même des limites à la capacité des gens d'emprunter, d'économiser. Là. Tu peux pas...
Ben, c'est ça, c'est extrêmement difficile. Je veux dire, une mère monoparentale avec trois enfants qui a une job à 30 000, c'est un exploit. Mais il y en a qui réussissent quand même. C'est sûr qu'il faut se priver, mais si tu te prives, tu réussis à mettre ça dans tes REER, baisser tes revenus, ça va être encore plus payant. Ton REER va être carrément gratuit dans certains cas, parce que les chèques du gouvernement vont tellement augmenter.
C'est ça, il faut faire le calcul. Merci beaucoup, David Décoteau, nous avoir parlé ce midi.
Ça fait plaisir.
Au revoir. David Décoteau est l'auteur donc du livre « D'endetté à millionnaire », mais vous pouvez aussi le lire dans le Journal de Québec.